un peu particulier pour moi parce que déjà je vais prêcher en français, ce qui est absolument qui ne m'arrive plus du tout. Je prêche constamment en anglais. Donc si vous entendez de l'anglicisme, je ne fais pas exprès. Ce n'est pas de ma faute. Et ensuite, je dois être court, puisqu'à 11h15, je suis mis dehors, ou vous allez partir de toute façon. Mais j'aimerais vous partager des choses. J'aimerais ouvrir la Bible avec vous. J'aimerais partager un texte avec vous. Court, quelques versets simplement. Dans Jean 14, je ne sais pas si vous connaissez l'évangile de Jean, mais l'évangile de Jean est cher à mon cœur, et spécialement ce chapitre, le chapitre 14, je l'aime énormément. Et donc je voudrais partager quelques pensées sur ces premiers versets du chapitre. Je vais utiliser tout le chapitre, donc si vous avez votre Bible ouverte, vous pouvez rester au chapitre 14. Et avant de commencer, je vais prier pour qu'on puisse être sous la présence de notre Père Céleste. Seigneur, nous voulons encore te remercier ce matin parce que tu es là, présent au milieu de nous. Tu es là dans ta parole aussi, Seigneur, et ce matin, je ne suis que le vecteur, que le porte-parole, le porte-drapeau de ce qui est en train de se dire dans ce texte-là, Seigneur. Nous voulons toucher nos cœurs avec ta parole, Seigneur. Nous voulons prendre ces mots et se les approprier, prendre ces promesses et se les approprier, pour pouvoir aller plus loin avec toi, Seigneur, pour avoir une certitude dans notre foi, pour comprendre de nouveau, Seigneur, le fondement de notre foi. En ton nom, Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Et j'ai bien fait de prendre un texte que je connais bien, parce que depuis hier soir, mon iPad, il s'amuse, il fait des trucs tout bizarres. Donc, c'est pas grave. On va lire ensemble. Je vous l'ai mis là-haut, et j'ai aussi une Bible ici. C'est trop petit pour moi là-haut. Je vais lire en Sommer, même si ici c'est en Louis II, mais vous suivrez avec moi. Chapitre 14, verset 1. Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Amen. La première chose qu'on doit se dire avant d'ouvrir ce texte, on doit parler de contexte. Parce que vous voyez, la première phrase parle de notre cœur. Ne laisse pas ton cœur se troubler. Ne sois pas dans le souci. Peu importe ta vie, peu importe ce que tu vis, ne sois pas dans le souci. Ne laisse pas ton cœur se troubler. Ce qui est un peu amusant, entre guillemets, parce que le contexte est très lourd. On vient de partager le pain et le vin ensemble. C'est le contexte de notre texte. Chapitre 13, c'est la Sainte Cène, ce que Jean a décrit comme la Sainte Cène, avec le lavement des pieds. Et Jésus est là pendant ce repas. Et à la fin de ce repas, alors qu'il vient de dire que Judas allait le trahir, un des 12 va le trahir, il le dit publiquement devant les autres. Il y en a un de vous qui va me trahir. Et qu'il vient aussi dire à Pierre, celui qui a toujours la bouche bien ouverte pour défendre Jésus. Toi, tu vas me renier. Non pas une fois, non pas deux fois, mais trois fois. Et dans ce contexte bien lourd, je ne sais pas si vous imaginez la scène. Imaginez avec des amis très chers, tous ensemble. Et votre meilleur ami se lève et dit, dans le groupe là, il y en a un qui va me renier. Dans le groupe là, il y en a un qui va me trahir. Mais vous savez quoi? Ne laissez pas vos cœurs se troubler. Vous croyez en mon Père, croyez aussi en moi. Ne laissez pas vos cœurs vous troubler. Je suis émerveillé de ces mots tendres. Émerveillé à chaque fois que je lis ce texte. Émerveillé de ces mots de Jésus. Parce que si on est tous honnêtes, le seul qui devrait être en panique à ce moment-là de l'histoire, à ce moment historique de l'histoire de l'humanité, c'est bien lui. C'est bien le Fils de Dieu. Il va nous le montrer un peu plus tard dans le jardin de Gethsémané. C'est lui qui devrait paniquer. C'est lui qui devrait être dans l'angoisse. Et vous avez vu ces mots ? Ne laisse pas ton cœur se troubler. Et ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il va continuer, non pas à essayer de comprendre ce qui fait paniquer ses disciples, à essayer de comprendre ce qui trouble ses disciples. Non. Jésus va pas aller dans ce chemin-là. Par contre, il va donner des promesses. Il va s'adresser à ses disciples et il va leur dire, il y a une place pour vous. Et peut-être qu'il y a une place pour vous, il y a une place pour toi, pour moi, ça ne te parle pas ce matin. Mais t'es-tu jamais posé la question, est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que je vais quelque part? Parce que c'est notre vie. On a tous des projets dans la tête, on veut tous savoir où on va. Et Jésus nous dit, t'inquiète pas, crois seulement. Parce qu'à la fin, tu seras avec moi. À la fin, il y a une place pour chacun d'entre nous qui appartenons au Seigneur. À la fin, il y a une place. Et j'aime penser cette place comme une chambre d'amis, avec mon nom gravé dessus, et j'ouvre, et il y a tous nos amis ici. Je pourrais poser plein de questions théologiques à Moïse, à Abraham, à Jésus. Il y a une place pour moi. Mais vous savez ce que ça veut dire ? Je prépare une place pour toi. Ça veut dire que Dieu nous aime. Il ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Quel que soit le moment difficile de ta vie, aujourd'hui, sache qu'à un moment donné, tu seras avec lui. Sache qu'à un moment donné, tu seras dans un endroit qui est préparé pour toi et toi seul. Et tu seras dans la présence de ton Père, en paix. C'est le meilleur endroit où tu peux te trouver. Parce que tu as été créé pour ça. Parce que j'ai été créé pour ça. Pour être en harmonie, en paix avec mon Père. Jésus continue, parce que maintenant qu'on sait où on va, et qu'on pourrait avoir cette paix de se dire, bon, ça va être difficile pendant quelques années, mais au moins à la fin, on sait où on va. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours cette question. Mais comment ? Comment ça marche ? Tu vas... Il y a une télécabine qui va monter là-haut, je vais disparaître et réapparaître là-bas. Regardez les mots de Jésus. Souvenez-vous du contexte. Juste après la Sainte Cène. Ne laisse pas ton cœur se troubler. Tu sais pas comment. Je vais revenir te chercher. Notre frère David a lu dans l'Apocalypse 3 fois. Je reviens. Je reviens. Pour qui ? Pourquoi ? Je reviens pour toi, mon Église. Je reviens te chercher. Je reviens te prendre et t'amener là où tu dois être. Et Jésus continue. Et il dit, tout ce que vous demanderez en prière, je vous le donnerai. Normalement, les anciens de cette église devraient dire, aïe, 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 qu'est-ce qui va nous sortir maintenant? Et si vous êtes des chrétiens d'un certain âge aussi, vous devriez vous dire, aïe, 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 tout ce qu'on demande à Jésus. Parce que moi, j'ai essayé, hein, Porsche, Ferrari, beaucoup d'argent, et ça n'a pas marché. Hein. Et oui, parce que la Bible est cohérente. Tu demandes tout ce que tu veux à Dieu. Mais souviens-toi, tu crois au Père et tu crois en Jésus. Ça veut dire que tout est en fonction de sa volonté, pas la tienne. Jésus continue dans les promesses, parce qu'il nous connaît par cœur, parce qu'il connaît ton cœur par cœur, il connaît mon cœur par cœur. Je sais où je vais, je sais comment je vais y aller, mais qu'est-ce qui se passe entre maintenant et le moment où tu vas venir me chercher ? Qu'est-ce que je fais, moi, tout seul planté sur la terre ? Eh bien, le truc, c'est qu'on n'est pas tout seul. Et ça, c'est extraordinaire. Encore une fois, la preuve d'amour de Dieu pour nous. Le Père a envoyé le Fils, et le Fils a demandé que le Père envoie le Saint-Esprit, le Consolateur. Dans les textes en grec, vous avez le même, l'aide. Mais en grec, ça veut dire le même. Et Jésus dit, je vais demander au Père qu'il t'envoie le même que moi. Alors, pas en chair et en os, mais en esprit. Et il va être continuellement avec toi. Pourquoi ? Pour te rappeler ce que moi je t'ai enseigné. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu n'es pas seul. Tous les jours de ta vie, toutes les minutes de ta vie, le Saint-Esprit est avec toi. Pour te guider, pour t'encourager et pour t'aider à faire ce que Dieu te demande de faire. Et Jésus continue parce qu'il y a des sceptiques chez les chrétiens. Il y a beaucoup de sceptiques. J'en suis peut-être le premier. Mais Jésus continue et affirme encore. Je ne vous laisserai pas orphelins. Le Saint-Esprit va vous servir de famille, qui va vous guider au sein de l'autre famille, l'Église. Vous êtes la famille, on est famille. Vous vous connaissez peut-être pas tous très bien, vous me connaissez peut-être pas, mais à cause de ce texte, vous êtes ma famille. Je suis votre famille, on fait tous partie de la même famille. C'est cette promesse, je ne suis pas orphelin. Et Jésus va continuer encore, peut-être avec la plus merveilleuse des promesses, parce que notre foi est basée sur quoi ? Sur la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus n'est pas ressuscité, tout ce que vous croyez sert à rien. Allez jouer au foot, venez pas à l'église. Si Christ n'est pas ressuscité, tout ce que vous dites le dimanche matin n'a pas de sens. Rentrez chez vous. Mais si Christ est ressuscité, ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'il vit. Si Christ vit, toutes ces paroles que vous avez ici sont vraies. Toutes ces promesses sont vraies. Et ça veut aussi dire, comme il le dit lui-même, si Christ vit, vous vivrez aussi. Mais il y a un hic dans l'histoire. Et en tant que Français, c'est souvent là que ça coince. Parce que c'est bien joli. On croit en Jésus, il nous a sauvés, il a fait tout le boulot à la croix. Nous, on a juste à croire. Pardonnez mon humour ici. Mais nous, on a juste à croire. On vient, on s'assoit ici et c'est bon. Et Jésus, encore une fois, connaît ton cœur. Jésus connaît mon cœur. Qu'est-ce qu'il va dire ensuite ? Si tu m'aimes, tu dois obéir. Si tu m'aimes, tu dois aimer mes commandements. Si tu m'aimes, ce qui serait logique, c'est la logique des choses, non ? Après toutes ces promesses, après toutes ces belles promesses, il va prendre soin de nous. Lui nous prouve qu'il nous aime. Donc c'est logique qu'on l'aime. Quelqu'un qui prend soin de toi, tu ne vas pas le détester. Tu vas l'aimer. Mais Jésus va plus loin. Tu dois aimer mes commandements. Choisir Christ, c'est l'aimer, lui et ses ordonnances. Ça veut dire que notre vie de chrétien est une vie engagée. Un chrétien comme ci, comme ça, un chrétien au milieu, ça n'existe pas. Vous savez pourquoi ? Parce que le milieu, dans toute la Bible, n'existe pas. Vous connaissez très bien Jean 3, 16. Est-ce que vous connaissez Jean 3, 17 ? On est tous condamnés. Il n'y a pas de milieu, le milieu n'existe pas. Avant d'appartenir à Christ, on est condamné. On est dans les ténèbres. On n'est pas au milieu, peut-être à droite, peut-être à... On est condamné. Le milieu n'existe pas avec Dieu. Et quand tu appartiens à Christ, quand tu choisis d'être engagé auprès de Christ, à ce moment-là, toutes ces promesses deviennent les tiennes. Mais Christ continue. Et c'est la bonne personne pour nous dire ça. Si tu m'aimes, tu dois aimer mes commandements. Parce que moi, Christ, j'ai aimé mon Père. J'ai aimé ses commandements. Et tu sais quoi ? Ma vie, c'est une vie d'obéissance. Ça, je ne sais pas pour vous, hein. Peut-être je suis le seul Français qui est bizarre ce matin. Mais quand on parle d'obéissance, je suis toujours... La preuve, ce drapeau, Révolution française. On est des bons rebelles, nous les Français, hein, des bons arrogants. On aime bien ça, nous, se plaindre et dire plein de choses. Si tu m'aimes, aime mes commandements, aime mes ordonnances. Choisis une vie qui est engagée, une vie d'obéissance. Et Christ nous dit que cela est possible uniquement si tu as une relation avec le Père. Et dans ce texte de Jean 14, dans tout le chapitre, Jésus à plusieurs reprises va dire « Moi, Jésus, je suis dans le Père, et le Père, il est en moi. » Qu'est-ce que ça veut dire en français courant ? Notre intimité est très, très, très forte. Et ce que j'apprécie, peut-être un des versets que j'aime le plus dans ce chapitre, c'est ce verset 20. Parce que verset 10, verset 11, Jésus répète « Moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Moi je suis dans le Père et le Père est en moi. » Rappelez-vous qu'il parle à des Juifs. Ils savent, ils connaissent le Père. Ils savent qu'il est en train de parler de Dieu. Christ est en train de dire « Moi et Dieu c'est pareil. » Mais au verset 20, il fait quelque chose d'un petit peu plus osé pour l'époque. Il dit, vous, Seb, tous ici, vous êtes en moi. Et moi, je suis avec le Père. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une relation parfaite avec Dieu le Père. Quand on est en Christ, il y a une place qui est prête pour toi et pour moi. Une place avec ton nom pour pouvoir être avec ton Père. Et cette place, elle existe parce que le Père veut une relation avec toi. Le Fils veut une relation avec toi. Le Saint-Esprit veut une relation avec toi. Les trois, en une personne, veulent une relation avec toi. C'est ce que ce texte nous dit. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Vous remarquerez que celui qui permet ça, c'est Jésus. C'est Jésus la clé. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut garder Jésus au centre. Quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, quelle que soit la circonstance ou les circonstances de ta vie aujourd'hui, bonne, mauvaise, peu importe, garde Jésus au centre, parce que c'est lui la clé de toute chose. Et vous connaissez ce verset par cœur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Et ce message, c'est fondement de l'évangile que j'ai partagé avec vous maintenant, que j'ai plus que 5 minutes pour parler du reste. Ce message de l'évangile, c'est ce que nous voulons transmettre chez GLO à l'Europe. C'est le corps de ce qu'on fait. Notre mission, c'est une mission qui parle de Jésus en Europe. Et pour ce faire, alors ma femme va pouvoir me crier dessus, tu me dis si j'oublie les choses, parce que ma femme elle est tout le temps en train de me dire « t'as pas dit ça, t'as pas dit ci ». Donc tu me dis si j'oublie des choses, ok? Donc GLO, qui veut dire, merci Jérémy, Gospel Literature Outreach, donc la distribution de littérature de l'Évangile. On fait 4 choses spécifiques dans GLO. La première, c'est qu'on forme les gens. Je vous ai parlé d'un collège biblique, je travaille, j'enseigne dans ce collège biblique. On prend soin de nos étudiants et on forme sur 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et on a plusieurs étudiants qui sont partis en master après, qui ont continué. Et on forme ces chrétiens pour qu'ils servent mieux le Seigneur, pour qu'ils soient plus au courant de ce qui se fait dans différents secteurs de l'Europe. Et c'est vrai que des fois, quand on est concentré sur une église, ou concentré sur une ville, ou concentré sur un pays, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. On ne se rend pas compte de l'ampleur du royaume de Dieu. Et même si l'Europe, aujourd'hui, ce qu'ils appellent nos chers amis anglo-saxons, le Dark Continent, le continent noir, point de vue du christianisme, parce que les églises n'avancent plus, vous voyez peut-être des implantations, mais de façon générale en Europe, l'église n'avance plus, c'est même le contraire. Et dans le reste du monde, l'église progresse. Et c'est pour ça qu'à GLO, on se focalise sur l'Europe, parce qu'on ne peut pas croire, on ne veut pas voir nos pays, qui étaient chrétiens autrefois, disparaître. On ne veut plus croire que cet étendard qui était dressé sur certains pays disparaisse. Donc on veut travailler. On équipe, on implante et on évangélise. Ça c'est l'organigramme, je ne sais pas si vous connaissez ces petites têtes. Peut-être lui, Sam Gibson, il a été pendant 10-15 ans à Marseille. Implantation d'église, donc il parle couramment le français. Stephen McCoy, qui est notre directeur général. Et le reste, vous voyez aussi Philippe Péria, qui est coordinateur de la France. C'est juste pour vous montrer qu'il y a un organigramme chez nous. La formation, je vous en ai parlé, sur 3 ans, sur place, en Écosse, où vous pouvez faire ça en ligne, ou à la carte, ou vous pouvez aussi faire sur votre droite. Vous avez Joshua Project tout, et First Serve qui est tout en haut là-bas. Tout ça sont des programmes. Par exemple, Joshua, c'est un programme pour les églises. Tous les mardis soirs, on accueille des membres d'église qui viennent au centre et on est en live et sur Internet parce qu'on a plusieurs autres centres au Royaume-Uni. Et en fait, il y a un prof qui vient, qui est filmé avec un micro. Lui, il donne le cours à la classe participe, mais il a en face de lui un ordinateur avec plein de petites têtes. Et d'autres gens, en fait, qui participent aussi au cours. C'est pas simplement du streaming, c'est pas simplement en ligne, mais c'est aussi live. Il peut parler avec les gens en ligne et les gens en ligne peuvent lui parler. Donc c'est de la formation encore et toujours. Donc la formation est très importante pour nous, mais la formation est toujours très axée sur la mission. C'est pour ça que dans notre collège biblique, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités pratiques. On va dans la rue, on va parler à des SDF, on va travailler avec des gens qui travaillent avec la petite enfance, avec des adolescents. On essaye de travailler dans le social. On essaye de montrer à nos étudiants que t'es pas là pour te remplir la tête. T'es là pour être transformé par la parole et pour agir. C'est ça la mission, être envoyé. Ce sont les ressources. C'est ma femme qui a créé ça, mais même moi, je m'y perds à chaque fois. Vous avez énormément de ressources. Glomédia, c'est ma femme qui travaille ici avec un ami. Globookshop, on a un énorme bookshop. À chaque fois que je rentre dans ce bookshop, je suis choqué parce que je connais la CLC de Grenoble. C'est leur placard à eux. C'est énorme, mais c'est tout en anglais. Et il y a un centre de conférences, un coffee shop. On a des magazines, on fait des événements et on a aussi notre conférence annuelle qui arrive en août, où on a souvent des Français qui viennent nous voir aussi et qui repartent ensuite en France. Donc tout ça, ce sont les ressources. On implante. Vous avez ici les photos de pratiquement tous les travailleurs GLO qui vivent tous par la foi, y compris ceux qui travaillent en Écosse au centre GLO. Il n'y a aucun salaire. Et tous ces gens-là sont, comme vous voyez les drapeaux, ils sont tous en Europe. Je vous pose une petite colle. Vous savez ce que c'est le premier drapeau, là, tout à gauche ? Celui-là, là ? Albanie. C'est très bien. Albanie. Les chers frères et sœurs qui sont là-bas. Mais si je suis là, et je suis déjà en retard, mais je vais continuer, ouais. Les équipes GLO, c'est quelque chose qu'on fait tous les ans. Tous les ans, GLO ne veut pas rester dans son carcan en Europe, dans ses pôles bien dessinés, ou juste dans la maison mère en Écosse. Ce qu'on fait, c'est qu'on part dans toute l'Europe. Et on part dans toute l'Europe pour faire tout ce qui est ici, servir le Seigneur, découvrir la mission sur le terrain, collaborer avec des missionnaires, pas forcément des missionnaires GLO, lier de nouvelles amitiés, expérimenter de nouvelles cultures, voir le Seigneur à l'œuvre et grand dans sa foi. C'est ce que je vous disais. Parce que des fois, moi je vois que mes églises maintenant à Motherwell en Écosse et je me rends pas compte de ce qui se passe. Mais quand vous allez en Albanie et que vous voyez comment ils vivent l'église, c'est un truc de fou. Et du coup, quand vous rentrez, vous êtes encouragé. Mais d'être allé sur place, vous les avez encouragés aussi. Donc c'est génial de voir ce que le Seigneur fait. Tous les ans, on a 37 à 40 équipes qui se déplacent dans tous les points rouges que vous voyez là. Mais c'est pas tout à fait exact. On a aussi l'Espagne, on a aussi plusieurs pays au centre ici. On a 200 volontaires sur place, c'est-à-dire des gens comme vous, des gens qui vont accueillir les équipes, qui vont préparer les repas, qui vont partir dans la rue avec les équipes. Parce qu'en fait, les équipes, elles viennent une semaine, 15 jours pour les équipes les plus longues. Mais c'est pas elles qui vont transformer quoi que ce soit. Les équipes, c'est un peu plus de main-d'œuvre. Mais notre vision à nous, c'est de faire des équipes GLO avec l'église locale. Sans l'église locale, nous, on sert à rien. Parce qu'au bout d'une semaine, on repart. Et si l'église locale, elle n'est pas là, si l'église locale, elle n'a pas pris le chemin, eh ben, ça ne servira à rien. Et du coup, on a besoin des églises locales. 200 volontaires sur place, 250 équipiers qui viennent principalement du Royaume-Uni, mais pas que. Vous avez pas mal de Français, pas mal d'Italiens qui joignent les équipes aussi. Et tous ces gens-là servent le Seigneur dans les équipes GLO qui se passent tous les ans. Vous pouvez visiter le site web, etc. Je vous laisse de toute façon les slides, donc vous aurez toutes les informations. Si vous parlez un petit peu anglais, là je fais de la promo pour le collège biblique, ça commence le 16 septembre. Donc vous avez encore le temps, vous pouvez encore vous inscrire et venir vous former en Écosse pour un an et repartir. Pour 2 ans et repartir, pour 3 ans et jamais rentrer. J'avais une petite vidéo, mais je vais la sauter. Je dois parler de ça si je veux rentrer vivant ce soir, puisque c'est le travail de ma femme. Donc, on est sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, et on essaye un maximum de promouvoir tout ce qui se passe, y compris dans les équipes. Vous demandez à ma femme, elle reçoit plein de photos en ce moment, parce que c'est le moment des équipes. Et elle reçoit plein de photos de ce qui se passe dans les équipes pour qu'on nourrisse les réseaux sociaux, pour montrer aux gens qui ne sont peut-être pas partis en équipe. Parce que souvent, j'ai des personnes plus âgées qui viennent me voir, qui me disent « Mais nous, on peut pas aller en équipe. On est trop vieux. » Bon, c'est tout relatif, parce que l'année dernière, on est parti en Sicile, on avait un couple avec nous, ils ont 71 ans. Et je peux vous garantir que c'est eux qui crapahutaient dehors, hein, et qui balançaient les évangiles, et même s'ils parlaient pas italien, pas grave, ils y allaient. Hein. Mais vous pouvez prier pour les gens qui y vont. Vous pouvez soutenir les gens qui y vont en mission. C'est un ensemble, on travaille pour le royaume. D'accord ? On travaille pas juste individuellement. Je vous laisse lire cette citation de notre directeur qui a à cœur l'Europe, qui a à cœur les églises locales, qui a à cœur de voir s'étendre le royaume de Dieu en Europe. Amen. J'ai pris 6 minutes de plus. J'espère que les poulets ne seront pas trop grillés.